Donc, nous allons continuer cette retraite. Et après avoir reçu cet après-midi, vous me suivez, hein, et un peu oxygéné déjà, après avoir suivi un petit peu tout l'essence du message de Paris, hein, qu'on a eu tout à l'heure, et nous allons continuer avec l'évangile de Saint Jean, mais avec le but qu'on a déjà parlé ce matin et hier soir, le but de prendre du temps avec le Seigneur. Je ne me fatigue jamais de le dire, le plus important de la retraite, c'est cet espace personnel dans lequel on laisse que le Seigneur nous parle au cœur. J'ai vu qu'ils ont travaillé bien dans ces diapos, no? Dans ces programmes, et on voit bien le cœur qui va d'un côté à l'autre, non? Et c'est sympa quand il les voit avec les explications. Ah, Seigneur, tu me changes un cœur, tu me donnes un autre cœur, maintenant c'est tout nouveau, et ça y est, non? Et c'est vrai qu'on voit les dessins, et on se sent déjà Sainte Marguerite Marie, au moins, non? Mais c'est vrai aussi que sans ce temps cœur à cœur avec le Seigneur, ça reste qu'un dessin et qu'une petite information, mais le fruit le plus grand que le Seigneur veut tirer dans chacune de nos vies n'arrive pas à se réaliser. Donc, le but principal de ces enseignements, c'est nous aider justement à que cette expérience, et le Père Paul nous disait très bien, le Seigneur n'aime pas plus Marguerite Marie que moi. Donc, oser d'entrer dans cet échange d'amour du Seigneur avec moi, c'est l'essentiel, première chose. Après, on prend l'écriture pour deux raisons. Une, parce que ce n'est pas des choses qui nous viennent dans l'esprit, boum, on les file, ce n'est pas comme ça, c'est Dieu qui les dit. À Dieu, nous l'écoutons, dit déjà le Concile Vatican II, lorsque nous lisons la parole, c'est Dieu qui s'adresse à nous, et cela est très important. Mais deuxième raison, c'est que notre vocation n'est pas simplement qu'on vive à Paris des moments spéciaux et après on revient à la vie quotidienne, mais que nous sachions comment faire chez moi pour continuer l'expérience ou agrandir ou approfondir l'expérience que le Seigneur m'a donnée. Et alors, chaque fois que je vais à une parole de l'Écriture, que dans laquelle le Seigneur m'a parlé ou m'a ouvert le cœur, où j'ai perçu quelque chose qui, dans lequel je percevais sa présence qui s'adressait à moi, chaque fois que je vais revenir chez moi à cette parole, ça continue. Et effectivement, un des désirs qui nous habite, c'est que la retraite ne soit pas simplement un moment spécial et après on revient à la plaine d'Avignon, non? On laisse les ventouilles, on revient à la plaine. Mais qu'en réalité, on peut en permanence tirer de l'eau du propre puits. Ça se trouve dans le livre des Proverbes, hein, qu'on dit. Et dans l'écriture et dans la relation avec le Seigneur, nous apprenons à tirer de l'eau du propre puits. Parce que notre propre puits est très habité par le Seigneur, mais parfois on croit que seulement quand on va quelque part, le Seigneur nous parle. Et le pauvre, il est toute la journée depuis de bon matin à vouloir s'adresser à nous. Ou comme on disait tout à l'heure, avec la garde d'honneur que j'aime beaucoup, c'est parfois en travaillant, parfois en allant au marché, parfois en recevant le monsieur qui vient, l'usier qui vient nous dire « vous n'avez pas payé la lettre », non ça, c'est vrai. Mais le Seigneur, il est toujours avec nous. Voilà. Donc, pour ça, lire l'écriture. Après, la proposition que je vous fais cet après-midi, c'est découvrir dans l'évangile de Saint Jean une des vérités les plus belles de la foi, et le Seigneur le dit à plusieurs reprises dans son évangile, que c'est que le Christ demeure en nous. Ce n'est plus moi qui vis, dirait Saint Paul comme résumé de l'expérience de Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et c'est très important de réaliser ça dans notre vie. Pas seulement le savoir. Par le baptême, nous sommes temple de Dieu. Mais c'est différent, un temple dans lequel Dieu se trouve dedans et il ne peut rien dire, rien parler, un temple dans lequel le Seigneur peut s'adresser à nous et nous à lui. C'est un temple de Dieu. Et j'aime beaucoup, je voyais tout à l'heure la sœur de l'Île-sur-la-Sorgue, non, de la fontaine de Vaucluse. Hein, elles sont à la fontaine de Vaucluse. Et j'aime beaucoup la fontaine de Vaucluse comme un exemple qui m'éclaire beaucoup sur cette vérité qui apparaît. Et je vais vous donner les citations immédiatement à plusieurs reprises et comme une espèce d'approfondissement dans l'évangile de Saint Jean. La fontaine de Vaucluse, pour les Vauclusiens, vous savez, donne le nom au département, c'est un lieu magnifique, non? Dans lequel, à moi, on m'avait parlé tellement bien de ça, et qu'on a eu la première année que nous sommes arrivés à Avignon, les gens nous parlaient, donc il faut aller à la fontaine de Vaucluse, nous sommes allés là-bas. Non? Mais hélas, c'était l'année de la canicule. 2003, oui, c'est exactement comme ça. Et c'était 2003. Et alors, que se passe-t-il? Que nous sommes arrivés là-bas, on nous avait parlé, l'eau qui regorge sans arrêt, et après, quand ça regorge, ça fait d'arc-en-ciel avec le soleil. À haut du rocher, il y a la maison Petrarca, écrivait à l'or de Nove, etc. Non, tu nous avais expliqué tellement ce truc, non? Et bon, on arrive là-bas, et il y avait un trou incroyable, non? Une sécheresse impossible, et des mouches partout. Dans le mois d'août, non? La canicule incroyable, vous rien, un trou énorme, hein, voyez, au fond, il semble qu'il devait y avoir de l'eau, mais les bouches, c'est l'unique chose qu'on voyait, non? Ça fait rire, mais moi ça m'a beaucoup aidé dans ma vie spirituelle, beaucoup plus de ce qu'on peut imaginer, parce que le Seigneur lui disait à la Samaritaine, c'est une des premières citations où l'on parle dans l'évangile de Saint Jean de la demeure de Dieu en nous. Jésus lui disait à la Samaritaine et tous les gens du pays voyaient bien qu'elle n'était pas forcément la personne la plus dévote de la région. En tout cas, je crois qu'elle n'allait pas apparaître tous les ans. Non, ça fait rire, mais vous voyez, non? Ça que, et c'était pas forcément, non? Et qu'il y avait des mouches autour d'elle, oui, non? Mais qu'on ne voyait pas les sources d'eau vive qu'il y avait dans son intérieur, seulement Jésus les voyait. Jésus voyait, avant même de parler de ses maris et tout ça, Jésus, la première chose qu'il lui dit, c'est d'abord en règle et après on parle. Non, 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 non. Jésus ne lui parle pas de ses maris pour commencer le dialogue, non? Jésus commence pour commencer le dialogue à parler des sources d'eau vive qui sont dans son intérieur. Jésus voyait les sources d'eau vive. Les autres voyaient que la canicule et les mouches. Mais ça se passe encore la fin, no se passa encore la fin, no? Ça va plus loin. Parce que celui qui nous a acompanyat i nos ha dit, en bas, hi ha une nappe phréatique, je connaissais pas le mot, je l'ai appris là-bas, une nappe phréatique, je le connaissais en espagnol, mais pas en français, no? Une nappe phréatique de 35 kilometres de diamètre, avec une eau qui vient des Alpes, incroyablement belle et pure, etc., non? Et que c'est merveilleux. Des sources d'eau vive qui sont de l'intérieur. Je vois que des mouches. Et souvent, dans la prière, nous arrive ça. Le Seigneur dit, ton intérieur, il y a une nappe phréatique incroyable, des sources d'eau vive que l'Esprit Saint a mis dans ton intérieur, qui est le plus vrai de ta vie. Et tu vois que des mouches. La prière ne fonctionne pas. C'est que Dieu n'habite pas en moi, pas vrai. Je suis en essayant de vivre en rapport d'amitié avec le Seigneur et ça semble que ça ne roule pas. Donc ça veut dire que le Seigneur s'est oublié de moi et il est parti avec d'autres, pas vrai. Moi, je vois que des problèmes dans ma vie. Des problèmes, voilà. Il y a des personnes qui se collectinent des étoiles, d'autres des problèmes, non? Et quand je vois que des problèmes, qu'on me parle, que j'ai une affreuse incroyable d'eau pure qui va jaillir et tout, je dis, écoute, moi, je vois que mes problèmes. Non, vous savez pourquoi je dis ça? Parce que c'est très sérieux. Effectivement, Jésus, à la femme de Samarie, lui dit, dans ton intérieur, il y a des sources d'eau vive qui jaillissent jusqu'à la vie éternelle. Après, pour qu'elle voit, pour qu'elle réalise, va l'inviter à faire un petit peu de vérité dans sa vie. Parce que sinon, elle voit que les mouches. Mais Jésus a déjà vu les merveilles qui se cachent dans son cœur. Et c'est de ces merveilles que le Seigneur veut apprivoiser notre vie en lisant la parole. Ton intérieur est habité, il y a de la merveille dans ton cœur, tu as le droit progressivement de vivre une vie fondée dans cette source d'amour qui habite ta propre histoire. Dieu demeure en nous. Et dans l'évangile de Saint Jean, qui nous a cité tout à l'heure le Père Paul, il dit « Demeurez en moi comme moi je demeure en vous ». Il demeure, n'est pas parti. Et l'exercice de prière, c'est lui donner l'occasion au Seigneur de se manifester au plus profond de notre intérieur dans lequel il aime habiter. Le ciel que Dieu aime habiter, c'est notre cœur. Cette phrase n'est pas mienne, est d'Élisabeth de la Trinité, qui appelait le ciel sur la terre. Et le ciel sur la terre, c'est le Seigneur qui vit en nous, réellement. Jean 4. Après, en Jean 7, versets 37 à verset 39, donc encore de l'évangile de Saint Jean, le Seigneur revient. Jean 7, verset 37 à verset 39. Le dernier jour de la fête, le grand jour, Jésus debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive celui qui croit en moi. » Selon le mot de l'Écriture, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. Il parlait de l'Esprit qui devait recevoir ce qui avait écrit en lui, car il n'y avait pas encore d'Esprit, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Cette citation de ce que Jésus a vécu les jours les plus importants de la fête renvoie à la même vérité. Et qu'est-ce que c'est que réaliser dans notre vie que le Seigneur demeure en nous. Comment je peux faire expérience de cette réalité du Seigneur qui m'habite? Et alors là, c'est très intéressant lire l'évangile de Saint Jean et dans le chapitre 14e. Parce que le chapitre 14e est une école progressive dans laquelle Jésus veut nous expliquer comment cela se fera-t-il que nous sommes en train de traiter amoureusement avec lui qui habite en nous. Première trace de la présence de Dieu dans notre cœur. C'est très intéressant parce qu'en réalité, cela, j'aime beaucoup venir à la lettre aux Romains, au chapitre 8, versets 25 et 27. Parce que dans la lettre aux Romains, Saint Paul dit que celui qui sonde le cœur connaît que les aspirations des saints sont selon Dieu. Cette phrase est une phrase très bizarre, à l'intérieur d'un chapitre 8e de la lettre aux Romains, dans laquelle Saint Paul parle de ce qui se passe lorsqu'on est habité par l'Esprit. Mais cette citation, pour moi, était une révélation. Pourquoi? Parce qu'effectivement, nous sommes très bien faits. Et au cœur de tout homme et de toute femme, il y a déjà des traces de cette présence de Dieu qui veut habiter nos cœurs d'hommes et de femmes. Les aspirations de tout homme et de toute femme qui vient dans ce monde sont toutes des aspirations qui ont comme origine les traces que Dieu a mis en nous. Même ces aspirations que nous appelons tentations et que c'est toutes ces choses qui nous amènent le plus loin possible de Dieu. Parce que derrière les tentations, il y a toujours quelque chose de divin qui se cache. Si tu veux être le plus grand, et tu veux être le plus grand en comparaison à quelqu'un d'autre, tu vas être piégé. Ça ne fait rien que ma sœur. Mais l'aspiration à devenir grand n'est pas un problème, c'est une trace de Dieu. Dieu ne veut pas que nous soyons petits et concentrés comme une espèce de le carré de bœuf là, qu'on met pour la soupe, non? Tu veux un grand bœuf et tu le concentres, et après tu as un carré pour la soupe, non? Non? Non, c'est vrai. Dieu, voilà, le cube, un carré, non un cube. Hein? Je me souviens d'une publicité quand j'étais enfant. Il y avait un grand bœuf énorme, et après, boum, ça s'est concentré de m'aider à cube pour la soupe. Non? Voilà. Non, mais la vie chrétienne n'est pas ça. Dieu veut que nous soyons grands. Le grand problème, depuis la création, c'est le mirage que Adam et Ève ont eu de croire que Dieu est un rival de notre déploiement. Que Dieu... Il faut lui faire attention, mais pas trop, non? Parce que sinon, on risque de devenir trop bigote, non? Et des gens un petit peu, voilà, illuminés. Hein? Et c'est vrai, hein? Mais en réalité, ce que le Seigneur dit, je ne suis pas quelqu'un qui vient embêter les aspirations les plus profondes de votre cœur, je suis quelqu'un qui vient les accomplir. Et attention, tu veux être heureux, tu veux déployer ton cœur pleinement, tu veux développer pleinement les dimensions qui t'habitent, avoir une liberté totale. Le Seigneur, il est à la faveur de cette liberté, à la faveur de ce bonheur, à la faveur de ce cœur complètement comblé d'affection. Mais depuis Genèse 3, vous savez ce qu'il y a chez Genèse 3? Voilà. Hein? Le livre de la Genèse. Voyez, est-ce que je parle... Les Espagnols nous parlent tellement mal que parfois on confond la Genèse et la Genèse, non? Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est le livre de la Genèse? C'est bon comme ça, non? Dans le chapitre 3, il y a Adam, Ève... et les aspirations profondes de leur cœur que le serpent leur fait découvrir que Dieu il est jaloux. Et cette jalousie dure jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi je ne vois pas, si le Seigneur m'habite au plus profond de mon cœur, ce résultat? Parce que je suis aussi très habité par des mirages mensongère qui m'empêche de lui accorder la confiance au Seigneur qui habite en moi et qui veut vraiment déployer tout mon être. Que lui arrive à Adam et Ève? Qu'est-ce que le serpent leur dit? Il leur dit tout simplement que Dieu il est jaloux que vous soyez comme des dieux, non? Et alors, c'est pour ça qu'il vous interdit de manger de ces machins. Et en réalité, parce qu'il sait qu'une fois vous mangez de ça, vous serez plus que lui. Et lui, il est jaloux de ça. Vous savez, ça n'est pas simplement un petit événement qu'on ne sait pas trop quand est-ce qu'il s'est passé. C'est une réalité qui agit en permanence dans notre prière. C'est nous qui lui expliquons à Dieu ce qu'il doit nous dire. Et très souvent, on n'a pas assez de patience pour écouter ce qu'il nous dit, même si non, ça non, ne me parlez pas de ça, ne me parlez pas de ça. Oui, parce qu'effectivement, là où le Seigneur me parle, il veut me faire du bien. Alors souvent, il y avait un prédicateur qui ça m'énervait quand il disait, oui, Adam et Ève, tous les problèmes qu'ils avaient, etc., non, c'était qu'ils étaient des matérialistes. Je suis pas sûr, non? Parce que qui est le plus grand matérialiste du monde? Dieu. Qui a créé la matière? Dieu. Et il n'a pas créé pour nous ennuyer. Le problème n'est pas dans la matière. Le problème est dans la méfiance. Qu'est-ce que Adam et Ève croient? Qu'ils vont devenir de Dieu à manger une pomme. C'est tout le problème, hein? Que tu vas déployer tes aspirations en étant au-dessus de l'autre dans ton ranking. Ranking, vous comprenez, non? Dans la rivalité, va très bien. Oui, très bien, merci. Non? Tu es au-dessus de l'autre. Quand tu as quelqu'un au-dessous de toi, tu te sens quand même quelqu'un, non? Ça ne te fait rien que ma sœur. Non, c'est vrai, hein? Trop souvent, notre... Alors, je vous explique pour les couples. Non, ça, j'aime beaucoup ça et généralement, tout le monde est d'accord. Non? On s'en fiche de la couleur des rideaux. Si les rideaux sont rouges ou bleus, à la fin, on s'en fiche. Mais de qui l'a décidé, non. Parce que je me sens quelqu'un quand c'est moi qui décide. Mais je ne me sens rien du tout quand c'est l'autre toujours qui décide. Je suis quelque chose là. Finalement, tu t'en fiches, ils sont rouges ou bleus, mais pas du tout qui a décidé la couleur de rideau, voyez. Ce mécanisme, on l'a tous. Et c'est de ce mécanisme que le Seigneur veut nous libérer. Parce que quand on est piégé par cela, on n'arrive pas à découvrir que Dieu, c'est lui, l'unique, qui veut combler mes désirs divins qui habitent mon cœur. Mes désirs de grandeur, mes désirs d'être pleinement ce que je suis, mes désirs de ne pas être manipulé, mes désirs de déployer tout ce que le Seigneur m'a mis comme talent dans ma vie, il est à ma faveur. Et quand je commence à reconnaître que le Seigneur est à la faveur d'accomplir mes aspirations les plus profondes, je commence à découvrir ce que le Seigneur me dit, qu'effectivement, il veut que je devienne en Dieu, en participation. Ça le dit dans l'Évangile de Saint Jean, chapitre 10, versets 34 et 35. Il nous dit, quand on accuse à Jésus, toi, étant un homme, tu t'es fait en Dieu. On accuse à Jésus de ça, c'est pour ça qu'on l'a tué. Et Jésus, au lieu de répondre, non, non, écoutez, moi je suis Dieu, mais vous non, hein, mais moi je suis la deuxième personne de la Trinité, Jésus ne dit rien de ça, il dit, n'avez-vous pas lu dans l'Écriture que vous êtes tous des dieux et des fils du Très-Haut? Autrement dit, le Seigneur, ce qu'il veut, c'est que les traces qu'il y a dans notre cœur, les aspirations profondes qu'il y a dans notre cœur, nous puissions les développer par les chemins que depuis toujours il a prévu pour que cela se réalise dans nos cœurs. Et c'est pour cela qu'effectivement, une des premières traces de la demeure de Dieu en nous, c'est les aspirations qui nous habitent. Quand on commence à les reconnaître avec le regard de Dieu, et c'est ça ce que le Seigneur est en train de lui dire à la femme de Samarie, et t'as cherché l'amour partout, les vraies sources d'amour qui vont combler ton cœur, c'est moi qui te parle, qui vais te les donner. Parce que c'est dans la rencontre avec moi et dans la relation d'amour avec moi que tu vas trouver celui que ton cœur aime. C'est pour lequel tu as été créé et c'est pour lequel, depuis toujours, il vit pour que tu développes pleinement ta vie. C'est pour cela qu'en Jean 14, en Assis, il y a des versets qui sont comme une préparation pour apprendre à reconnaître la présence de Dieu dans notre intérieur. Qu'est-ce qu'il y a en Jean 14, en Assis? C'est un texte qu'on lit souvent quand on fait des funérailles. Mais ce n'est pas des funérailles qu'on va parler, c'est simplement qu'on les choisit pour les funérailles, c'est déjà une interprétation. Mais en réalité, dans ce test de Jean 14, 1 à 6, ce qu'il y a, c'est que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures, sinon je vous le redis, et je vais vous préparer une place. Voilà, c'est pour ça que je l'ai choisi pour les enterrements, non? Je vais vous préparer une place. Et quand je serai allé et que je vous aurai préparé une place, à nouveau je viendrai et je vous prendrai près de moi, afin que là où je suis, vous aussi, vous soyez. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette phrase de Jésus? Bien sûr qu'il y a ce qui va se passer à la fin et qu'il nous prépare une demeure dans le ciel. Mais la première demeure que Jésus veut préparer, là où je suis, c'est dans notre intérieur. Il veut nous préparer. Comment va-t-il nous préparer une place? Par le mystère pascal. C'est par le mystère pascal que le Seigneur, en donnant totalement sa vie, il va s'ensevelir en nous. Cette phrase n'est pas mienne, est d'Élisabeth de la Trinité. Le Seigneur est enseveli dans notre cœur. Quand je mange la communion, il y a Jésus qui rentre réellement dans mon intérieur, et il est enseveli dans mon cœur. Après, c'est à moi d'écouter, c'est à moi de lui laisser parler ce que Jésus lui disait à Marguerite Marie, ou que tout à l'heure le Père nous disait, le Père Paul dans la diapo, non, dans le programme, c'est et lui laisser venir à notre cœur. Je vais vous raconter une autre anecdote qui va éclairer de ce dont on parle. Et c'est quand je suis arrivé à Toulouse pour étudier la théologie. J'étudiais à Toulouse déjà, et alors, ça fait déjà un petit moment, et alors on m'envoyait, parce qu'il voulait que je sois missionnaire en Afrique, dans la communauté où j'étais, et vous allez à un pays francophone pour étudier la théologie, parce que comme ça, vous serez dans un pays francophone en Afrique, donc vous étudiez déjà la théologie en français. Mais je suis arrivé au mois d'octobre, c'est le cours commencé, et je ne savais rien de français, voilà. Quelques mots comme ça, non? Et alors, je n'avais pas prévu. C'était tellement nécessaire qu'il y ait des missionnaires qui m'ont envoyé comme ça, non? Et alors, j'allais à la paroisse, et le curé de la paroisse de la Dalbade de Toulouse, c'est très concret, le curé de la Dalbade, à la fin de la messe, parce que je me suis présenté, il dit, s'il y a quelqu'un, non? Qui voudrait Pedro Diton, voilà, c'est aussi Pedro Diton, non? Avec un petit frère qui étudie la théologie, parce qu'il ne sait pas encore français, non? Qu'il vient me voir à la fin de la messe, non? Il est arrivé une dame, qui pour moi, ça m'a fait, c'était un vrai cadeau du ciel, non? Qui m'a introduit dans le français, non? Mais, effectivement, j'allais à l'époque avec des sandales faites à la main, avec des vieux pneus de caoutchouc, un peu à la missionnaire, un peu comme ça, non? Et des jeans et tout, et j'arrive à cette maison, et jamais j'avais trouvé un palais comme ça, vraiment. C'était, le parquet était tellement, tellement brillant qu'on se voyait dans le parquet, non? Je voyais mes caoutchoucs qui entraient, ça va être la catastrophe, non? Ça, c'est vrai? Et après, il y avait une moquette incroyable, non? Ça que tu mettais, je dis, mes pieds de pachyderme, non? Au-dessus de cette moquette, ça va? Non, mais la dame avec une délégation, mon petit frère, etc. Non, et après, il y avait un petit truc. Et il y avait une dame qui sortait de derrière, je ne sais pas où, non, et elle nettoyait les traces de mes caoutchoucs. Non, elle était très délicate, très gentille, mais en même temps, voilà, elle ne pouvait pas supporter voir les traces que j'ai laissées. Non. Et c'est impressionnant parce que quand je me suis enfoncé après avoir traversé le parquet et puis la moquette et tout ça dans un fauteuil, non, j'étais comme ça, non. Asseyez-vous, mon petit frère, va commencer à parler en français. J'étais intimidé, bégayais, non. Ça reste jusqu'aujourd'hui, non, ça. Mais attention, pourquoi j'ai dit ça? Parce que après, j'ai compris que souvent j'ai traité Jésus comme ça. Il vient dans mon intérieur. Dans cette chambre, n'entre pas, non? Dans ce coin, ne me dis rien. Sur ça, surtout pas, non? Mais changez le programme. Non, ne me changez le programme, non? Et puis Jésus, il est dans le fauteuil, non? Il lui dit, parle, parle. Il me disait, parle en français. Ça fait rire, hein? C'est pas loin de la réalité. Et c'est pour ça que le Seigneur nous invite à prendre du temps et à ouvrir le cœur, pas à lui expliquer à Dieu par quel chemin il va déployer notre intérieur, mais lui laisser parler. C'est pour ça qu'on prend l'écriture, lui laisser parler, lui demander comme des amis, Seigneur, que veux-tu maintenant de moi? Quels sont ces aspects de ma vie dans lesquels je n'ai pas trop envie que tu entres? Encore un autre exemple, excusez-moi. Pour moi, c'est à travers les exemples qu'on entre dans le sens de la parole. Pourquoi le Seigneur parle de la Pâque? Parce qu'en réalité, il s'ensevelit en nous, il donne la vie pour nous en avance, et seulement si moi je vais reconnaître la merveille d'amour dont je suis aimé, il va commencer à se manifester dans mon cœur. Seulement quand je suis prêt à reconnaître qu'il m'a aimé, s'est livré pour moi. Exemple, Lourdes. C'est que vous me connaissez, désolé, vous me l'avez entendu parler, mais pour moi, c'est nécessaire de le dire chaque fois, parce que ça m'aide aussi à moi-même. Lourdes, nous savons tous que à Lourdes, la dame lui dit à Bernadette, la dame, parce que Bernadette ne savait même pas encore comment s'appelle, ça l'a dit plus tard, non? La dame lui dit à Bernadette, va prendre de l'eau. Et Bernadette, un bon paysan, no? Comme nous sommes nous-mêmes, elle s'en va à la rivière. Et la dame lui dit non, ici. Et Bernadette voyait qu'il y avait de la boue. Ici. J'irai. Hein? La tendance à lui expliquer à la dame, à expliquer à Jésus, non, mais l'eau, c'est à la rivière. No? Non, ici. Ah, non, je ne vais pas. Oui, gratte. Et en grattant, il y a la boue. En grattant, il y a l'eau sale. En grattant, il y a l'eau moins sale. En grattant, il y a l'eau de Lourdes. Qu'après, on la vend en petite bouteille partout. Non, non, mais pour moi, c'est très important. Pourquoi? Parce que la dame dira qu'elle est ego soy. Immaculada Conception, no? Parce qu'il le dit en patois, hein? Ego soy era. Bon, je me souviens plus, hein? Voilà, excusez-moi, non? J'avais pris par cœur le patois et je l'oubliais, non? Mais, alors, non, mais je suis l'Immaculée Conception, qu'est-ce que ça veut dire? Que Marie n'est pas en train de dire, moi je suis l'Immaculée Conception, et après vous êtes tous une bande de moules ou de pêcheurs que vous n'arrivez pas à vivre ce qu'il faut, sinon par cet acte, la dame est en train de lui dire à Bernadette comment au-dessous de la boue il y a l'Immaculée Conception chez tous. Ah, mais vous dites des phrases trop belles, non? C'est la lettre aux Éphésiens, chapitre 1, verset 5. Avant la création du monde, il nous a créés saints et immaculés dans sa présence dans l'amour. Et c'est là, on les lit toujours dans la fête de l'Immaculée, la deuxième lecture, c'est cela. Pourquoi? Parce qu'au-dessous de la boue, il y a le pire. Parfois, je n'ai pas trop envie de parler avec le Seigneur de ce qui ne va pas dans ma vie. Je couvre d'un tapis ce qui ne va pas et je suis clean. Et quand je suis clean en couvrant d'un tapis, il ne se passe rien. C'est encore pas moi, c'est la lettre aux Corinthiens, deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 3, verset 6 et suivant. Dit la lettre aux Corinthiens, Moïse s'est caché le visage pour que les Israéliens ne voient pas ce qui était périssable en lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Moïse couvrait d'un tapis, est-ce qu'il voyait, il voulait pas qu'on voit de lui? Et en couvrant un tapis, il ne se passe rien. Je ne vois pas le Seigneur en moi. Comment vas-tu voir si tu as le même tapis qui te sert pour cacher ce qui ne va pas en toi et le même tapis qui t'empêche de découvrir le Seigneur qui t'habite? Le même. Et Saint Paul dira, seulement quand dans la confiance tu es capable de déposer sur le Seigneur ta boue, la boue de ta vie, l'eau pure va jaillir. Chaque fois que tu couvres d'un tapis, oh, le Seigneur, ma nappe phréatique n'émerge pas. Mais comment va-t-elle émerger? C'est le même tapis qui t'empêche, qui te permet de cacher ce qui ne va pas en toi. C'est le même tapis qui t'empêche de découvrir les merveilles d'eau pure qui t'habitent. Et c'est pour cela que c'est si important savoir le mystère pascal. Que signifie-t-il que le Seigneur s'est livré pour moi? Signifie qu'il a pris sur lui toute ma boue. Il a pris sur lui tout ce qui ne va pas en moi. Il a pris sur lui tous mes maris et les copains qui maintenant ne m'aiment pas mari, etc. Il a pris sur lui toutes les situations difficiles que j'ai vues et que j'essayais de gérer à ma façon. Il les a pris sur lui. Et quand je reconnais qu'il les a pris sur lui, il commence à disparaître la boue, il commence à émerger l'eau pure qui était déjà là, mais que moi-même, tout seul, j'étais incapable de faire jaillir. C'est pour cela qu'il est tellement important de laisser parler Jésus dans notre cœur. S'il est intimidé, et il y a plein de chambres dans lesquelles je ne le laisse pas toucher, et plein de coins dans lesquels j'efface ses traces, parce que ça, je ne veux pas que ça ne se voit pas trop, alors à ce moment-là, il ne se passe rien. Mais ne peut-il se passer si tu ne lui as pas accordé cette vérité de foi qu'au-dessous de la boue, il y a l'eau pure de son amour qui est déjà là, capable, comme la nappe phréatique, vous vous souvenez, non, de faire émerger dans notre intérieur la présence vivante de ce que le Seigneur est capable de faire. C'est pour cela que pour faire une expérience vivante de la demeure du Seigneur en nous, il ne faut pas avoir peur de regarder les crucifiés. Parce que le regarder et accepter que c'est moi qui ai mis la main sur lui, Isaïe 53, est ce qui permet que progressivement je passe de la boue à l'eau pure. L'eau pure émerge. Moi, je me souviens une retraite que j'ai prêchée au sud de Paris, à Ezo. Ils étaient venus des jeunes d'un peu de différents pays d'Europe. Et Ezo, c'est près des temples. Non? Et alors, j'étais là-bas à prêcher une retraite avec des jeunes, il y avait d'Angleterre, d'Allemagne, etc., d'Espagnol, d'Italien et français. Et c'était 5 jours. Et on était au 3e jour, et j'avais l'impression que personne s'accolait pas. Hein. Il y a des fois que tu parles, tu sens que les gens, ils perçoivent quelque chose, non? Il y a des fois que tu parles, et c'était les chaises qui bougeaient tout le temps. Hein. Premier jour, 2e jour, 3e jour, et Seigneur, qu'est-ce que j'ai pu faire, non? J'ai demandé pardon, je ne savais plus quoi faire, parce que je sentais que ça ne passait pas. J'avais préparé, pourtant, des papiers, mais non, ça ne passait pas. Et Seigneur, j'ai dû faire des gros péchés. Et alors, il y a une nuit, la nuit du 3e jour, entre le 3e et 4e jour, j'ai dit non, jusqu'à ce que le Seigneur me fasse vraiment percevoir que c'est pastille, je ne bouge pas de la chapelle, non? C'était un moment fort, hein, parce que je disais, tous ces jeunes, quelle faute ils ont commis pour avoir un apôtre si peu vivant et si peu capable de veiller dans leur cœur la présence du Seigneur. Et alors là, à 11h du soir, je commence à percevoir que le Seigneur me dit, crois-tu, pas les gros péchés du passé, parce qu'avant ma conversion, moi, je n'étais pas un CV parfait, ok? Mais après la conversion, déjà missionnaire, consacré au Seigneur, etc., gros péché, voilà, j'arrêtais le réveil, non? Je me mettais le réveil à 5h, et à 5h, je l'arrêtais, non? Et je me réveillais à 6h, 6h30, voilà, comme ça, non? L'autre jour, voilà, il y a toujours dans une communauté des gens qui s'accolent, non? Il y a des gens qui ne s'accolent pas. Et moi, j'ai fouillé les gens qui ne me collaient pas, non? Ça, voilà, mais ce n'est pas un gros péché, je ne l'ai pas tué, quoi, ça. Non, voilà, mais les petits péchés, y a-t-il un péché petit? Non. Le Seigneur me disait, crois-tu que dans ce que tu dis, petit péché, tu me tues? Non. Je ne pouvais pas accepter que le Seigneur était sur la croix par ces choses. Par les gros trucs du passé, oui. Mais pour ça, non. Non, non. Minuit, non. Moi, je suis habitué aux nuits avec le Seigneur, que ça va pas, non? Et une fois, j'étais un peu rassuré parce que je ne pouvais pas dormir, je suis dans une chapelle, et je dis, je vais à la chapelle, non, à 2h du matin, et je trouve quelqu'un qui était devant le tabernacle, il ne me voyait pas, j'étais au fond de l'église, non? Le tabernacle, il faisait comme ça. Et comme il croyait qu'il était seul, il lui disait à Jésus, non. Ça, il y a des batailles. La prière n'est pas, les anges m'ont parlé. Ben, parfois, s'ils te parlent avec douceur, et comme on disait ce matin, tant mieux. Mais parfois, ça bagarre, non? Mais les bagarres avec le Seigneur ne sont pas un problème. Si c'est lui qui vainque. Hein? Non, mais c'est important. Et alors, minuit? Non. 1h du matin? Non. Vous savez que tu sens, peut-être la tête dit oui, parce que le Seigneur meurt pour tous mes péchés. La tête dit, mais le cœur n'adhère pas. Voyez le cœur. Et c'est dans le cœur qui se passe les grandes rencontres avec le Seigneur capables de transformer ma vie. À 2h du matin, je vais à 3h du matin, oui. J'ai accepté que toutes ces réalités, plus ou moins normal, qu'avant j'ai considéré qu'il était plutôt au-dessus de la moyenne, non? C'est très mauvais ça, au-dessus de la moyenne. Qui dit la réalité de mon cœur devant le Seigneur? Quand j'ai dit oui, immédiatement, mais pour moi c'était vraiment incroyable, non? J'ai perçu la valeur que le Seigneur donnait à ma vie, à chacun de mes actes. Ta vie m'est précieuse. Tu sais ce que signifie ce oui? Que je prends tellement au sérieux ta vie que tes paroles, tes minutes, le temps que tu passes, le temps que le mépris que t'a fait l'autre, le truc qui n'est pas trop grand, mais quand même, non? T'as tout ça? Je considère ta vie d'une valeur tellement grande que je voudrais que toute ta personne soit rayonnement de moi. C'est pour ça que je donne la vie pour la tienne. Vous savez ce que c'est que ça? Ça, l'orgueil ne l'accepte pas beaucoup. Mais lorsque le Seigneur commence, on commence à faire confiance à ce qu'il nous dit, le cœur commence à se dilater et on perçoit que notre vie n'est pas n'importe quoi, perdue dans la planète et à faire à peu près pas trop de mal. Non? Moi, quand les gens me disent « Non, je fais pas trop de mal. » Je dis « Aïe, 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 aïe. » Oui, parce que c'est vrai qu'on ne fait pas trop de mal. Mais c'est vrai aussi que ce que le Seigneur a dans son cœur sur ma vie, je suis complètement à côté. Par amour de moi, hein? Par amour de moi. Et alors, l'abus disparaît, l'opir émerge. Mais cela se joue dans un dialogue pascal. Et c'est ça ce que Jésus, en Jean 14, Anna 5, que nous sommes en train de méditer, qu'est-ce qu'il dit? C'est par ma Pâque que je vous préparerai une place. À fur et à mesure que vous reconnaîtrez que je suis en train de donner la vie pour votre vie, la place, ma place dans votre cœur va commencer à être une réalité vivante dans laquelle vous découvrirez que les sources d'eau vive sont vraiment dans votre intérieur. Il n'y a pas que des mouches. Il y a une vraie nappe phréatique dans votre intérieur capable de faire émerger des trésors. Cela est le cœur de cette vérité de la demeure de Dieu en nous. Il commence comme ça, le chapitre 14, et après il continue dans le verset 20. Et dans le verset 20 dit, « Ces jours-là, vous comprendrez comment le Père est en moi et moi dans le Père, et vous êtes en moi et moi je suis en vous. » Parce que la réalité de la demeure, c'est de la même façon que le Père m'habite, moi j'habite votre cœur. Et quand je commence, ou quand vous commencez à reconnaître le mystère pascal, vous découvrirez jusqu'où cela n'est pas une idée, une vérité vivante dans votre intérieur. Et qu'est-ce que ça donne? Jean 14, 23. Tous les numéros que je vous donne, c'est pour vous dire, c'est tout dans le chapitre 14, une école progressive de réaliser la présence de Dieu dans notre intérieur. Qu'est-ce qu'il dit en Jean 14, 23? Quelqu'un veut le lire avant de partir? Hein? Jean 14, 23. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, c'est-à-dire... Je ne vais pas mettre les paroles cachées. Je vais laisser parler Jésus. Il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous ferons une demeure chez lui. Parce que ça, Élisabeth de la Trinité l'a transformé. Parce que habituer notre intérieur à traiter avec Jésus qui nous habite et la merveille la plus grande qu'on peut vivre sur la terre. On est menacé par personne. On a un vrai ciel, même si je suis dans un cachot, dans les circonstances les plus difficiles d'une histoire qu'on puisse imaginer. Traiter Dieu dans mon intérieur, c'est ce qui nous permet d'avoir les yeux suffisamment lavés pour découvrir au-dessous de la boue de l'autre, l'eau pure qui se cache aussi. Je ne sais pas qu'est-ce qui lui arrive à cette personne, que même quand il voit des gens un petit peu méchants, il est capable de dépasser la réaction et croire à la merveille qui se cache dans le cœur de l'autre. Jésus, habitué au Père qui habitait son intérieur, il voyait dans la Samaritaine la nappe phréatique, les sources d'eau vive qui étaient dans son intérieur. Jésus était capable de voir au-dessous de la boue l'eau pure. et d'agir, était capable de voir qu'au-delà de la réaction que l'autre me provoque, il y a des aspirations divines qu'il ne connaît pas, mais que s'il savait, si tu savais les dons de Dieu, lui dit Jésus à la Samaritaine, et celui qui te parle, tu le demanderais à lui, il t'aurait donné de l'eau vive. Parce qu'il est capable de le faire. Mais attention, si je couvre d'un tapis ce qui ne va pas, c'est très difficile que cette merveille commence à émerger dans mon cœur. Voyez ? Comment cela s'est fait ? Ce que j'ai donné, c'est le fondement théologique et spirituel de cette réalité. Comment cela peut-il se faire ? Déjà, pas avoir peur de reconnaître notre propre pauvreté et notre propre péché, comme si c'est quelque chose que le Seigneur ne voudrait pas voir. Parce qu'il le voit. Mais pas le voit comme un œil, comme ça, pour mettre... Non, non. Il le voit, il dit, aïe, s'il me donnerait tout ça, ce que Jésus lui disait à Saint Jérôme, je vais finir avec ça. Vous savez qui est Saint Jérôme, un des premiers pères de l'Église, qui a passé un temps à Bethléem, qui a traduit la Bible en 6 langues, qui est spécialiste de la Bible. Et Saint Jérôme disait, phrase très, très, très belle, dans son dialogue avec Jésus, parce qu'il disait qu'il voulait lui offrir à Jésus quelque chose de plus. Et je vais t'offrir quelque chose de plus. Et le Seigneur lui disait, Jérôme, donne-moi tes péchés. Quelque chose de plus, donne-moi tes péchés. Quand je suis capable de lui offrir au Seigneur mes péchés, réellement, je permets que cet échange qui se passe entre Jésus et la Samaritaine commence à habiter mon intérieur et je commence à découvrir que toute ma vie, même les circonstances les plus difficiles que je peux vivre, n'ont aucun empêchement pour parler avec lui. Moi, je me souviens d'une personne mariée qui était au point du divorce et au moment où l'on a pu parler de ces merveilles du Seigneur qui habitait dans son cœur, donc il n'avait plus peur d'être seul, elle a récupéré son mari. Parce que la peur d'être seul projette tellement de négativité qu'on est, au lieu d'être un lieu où la réciprocité pénètre, ça provoque l'énervement aussi de l'autre côté. Quand je dépasse la peur d'être seul, je commence à découvrir que la source de l'amour du Seigneur m'habite. Il y a quelque chose qui dépasse le réactif pour entrer dans une relation à l'autre qui est vraie aussi. Ce n'est pas que de l'espiritualité mystique des grands saints, c'est une réalité que le Seigneur veut nous donner à chacun. Et nous avons le droit de pouvoir jouir de cette école. Voilà, donc j'ai fini déjà. On a passé un bon moment, non? Et donc du coup, on a 35 minutes avant la prière de guérison. Et ceux qui veulent peuvent aller à la chambre, ceux qui veulent peuvent aller à la chapelle de l'adoration, mais donnez-vous un peu de temps pour ça, pour parler avec Jésus, vraiment. Si on pouvait cet après-midi rester en silence un petit peu, non, jusqu'à la guérison, parce que le silence n'est pas qu'on est tous coincés, non, c'est pas ça. Le silence, c'est que si je lui accorde au Seigneur un peu ce climat, il peut parler. Imagine qu'il y a quelqu'un qui se promène et que Jésus est en train de lui parler. Et j'arrive, ah, oh, qu'est-ce que c'est bien cet après-midi. Non, pas maintenant, voyez. Accordons-nous un temps de silence pour que le Seigneur puisse parler dans notre intérieur.